Eh ben bonsoir, bienvenue dans le nouveau podcast de la librairie La Bande Dessinée. Je suis accompagné de Marianne, Simon, Andy, Vincent. Et en gros, thème de ce soir, on va vous parler d'œuvres qui ont déjà eu une existence en bande dessinée directement ou qui viennent de littérature et qui ont été reprises par un auteur ou une autrice et dont la vision, pas forcément l'adaptation au stricto sensu, mais la version de ce personnage nous a pu nous inspirer, en tout cas on a trouvé ça intéressant. On va tout de suite rentrer dans le sujet puisqu'on va passer avec Marianne qui va nous présenter son premier personnage et son premier album.
Nicolas nous a envoyé le sujet, je me suis dit cool, pour une fois ça va être facile. Donc il fallait que je trouve un personnage sur lequel j'aurais des choses à dire et dont les reprises sont intéressantes. C'est là que j'ai réalisé que j'avais pas compris le sujet. Je pensais qu'il fallait forcément choisir un personnage de BD repris par un autre auteur de BD. Mais comme c'est Nico qui choisit le sujet, je me suis dit qu'il avait trouvé une formule plus complexe. Contractuellement il est obligé parce qu'il sort des Beaux-Arts. Mmh. Et en fait non. C'est moi qui comprends rien. Mais ça, ma prof de français de 3ème l'avait déjà écrit sur mes bulletins scolaires.
Oh, ça, c'est pas très
Donc
gentil.
Bref, j'ai choisi un personnage que j'aime pas, que je trouve un peu chiant et très surfait. Corto Maltese. Visiblement, mon opinion n'est pas majoritaire auprès de mes pairs. Corto Maltese, personnage créé par Hugo Pratt à la fin des années 60, s'est imposé comme LE héros majeur de la bande dessinée. Marin, d'origine maltaise, né en 1887, Corto vit ses aventures au début du XXe siècle. Et quelles aventures? Ça, c'est typique des Gémeaux. Petite définition de Wikipédia. Un esprit constamment en action qui le pousse à analyser, à concevoir et à décortiquer ce qui l'entoure. Il n'aime pas les questions sans réponse et cherche toujours des solutions à tout. Ce trait de caractère fait de lui un homme très cultivé, ouvert à la découverte et fuyant la routine. Du Corto tout craché. Je n'avais pas lu Corto avant que très récemment, pas faute d'avoir tenté, mais à chaque fois ça me tombe des mains. Donc, dans un souci de professionnalisme, j'ai tenté de lire La Balade de la Mer Salée et Sous le signe du Capricorne. Mais non, ça marche toujours pas. Alors j'ai regardé l'adaptation au dessin animé. Un peu mieux. Mais là où beaucoup, j'ose pas dire tout le monde, voit un marin brun, ténébreux, qui vit des aventures incroyables, moi je vois un type lourd, un poil misogyne, opportuniste et vulgaire. J'aurais pu parler de la reprise de Juan Díaz-Canales et Ruben Pelejero, qui paraît depuis 2015 chez Casterman, mais non, parce que ça reste un peu trop proche de la série de base. Alors quand j'ai vu que Bastien Vivès allait sortir un Corto Maltese à sa sauce, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Peut-être que j'allais enfin aimer Corto. Donc oui, voilà, c'est maintenant que je chronique l'album qui est annoncé. Océan Noir, une aventure de Corto Maltese par Martin Kenen et Bastien Vivès. Donc on reste sur des bons gros classiques de Corto. Hein. Un abordage qui tourne mal, des femmes, un trésor. La grande nouveauté, c'est que l'histoire se déroule au 21e siècle, après le 11 septembre 2001 du coup, avec les enjeux géopolitiques qui en découlent. Mais cette fois, Corto navigue sur des bateaux un peu plus modernes, qui l'emmènent du Japon à l'Amérique du Sud, où il va croiser un pilleur de tombes, un agent de la CIA, et pour cocher toutes les cases de Corto Maltese, Rasputin, l'emblématique méchant, ennemi slash rival. Et donc là, je trouve que le dessin de Vivès est beaucoup plus accessible que celui de Pratt. J'en vois qu'il fronce les sourcils. Je ne dénigre pas le dessin de Pratt, mais c'est plus fun de lire du Vivès. Et le scénario m'a presque embarqué. Et contrairement à beaucoup d'avis que j'ai pu lire sur les internets laissés par des puristes, je peux même dire que j'ai bien aimé. Et quitte à être contre-courant, et ben ce Corto moderne me fait un peu plus rêver. Ça, c'est typique des poissons.
Eh ben merci Marianne. J'ai noté deux, trois petites choses pour conclure, et après je passerai la main chroniqueur suivant, et ça sera Simon. Du coup, moi j'avais lu uniquement La Mer Salée.
Qui n'est pas à proprement parler une histoire de Corto Maltese. Qui est une histoire dans laquelle intervient Corto Maltese. Mmh. C'était pas encore estampillé Corto à l'époque. Ce personnage lui avait plu, et c'est là qu'il a lancé la série.
Et ben, bonne remarque, parce que quand j'ai regardé le dessin animé, je me suis dit, c'est marrant.
C'était l'un des personnages un peu secondaires. C'était un récit un peu choral, en fait, la Balade de la Mer Salée.
Ça fait sens.
Ouais. En tout cas, ça a le mérite d'exister.
La Cour secrète des Arcanes était très sympa.
En série animée. Il y a aussi des pièces de théâtre, il y a eu des timbres. Il y a eu des pubs pour l'eau de toilette Dior en 2001. Alors, la petite particularité, c'est que celle qui a fait le dessin pour Dior, parce que c'était en 2001, et du coup, Pratt est déjà décédé, c'est Patricia Zanotti, qui en fait l'ayant droit principal et qui est en fait la coloriste historique de Hugo Pratt.
C'est elle qui l'a formé en fait de son vivant, qui s'est chargée d'ailleurs de la mise en couleur de toute la série a posteriori, après la mort de Pratt.
2018-2019, on avait une assez belle exposition au musée des Confluences à Lyon. Il y a aussi une énorme statue de 2,5 mètres, 300 kg à côté des Beaux-Arts d'Angoulême.
Et ce que tu dis d'ailleurs par rapport au musée des Confluences à Lyon, c'est qu'aujourd'hui, à côté du grand squelette de baleine qui est exposé au musée, il y a toujours une reproduction en très grand format.
C'est squelette de Corto.
une grande reproduction d'une planche de Corto Maltese, qui fait partie du décor du musée. Corto devant un squelette de baleine et qui parle du bruit que fait le vent en passant entre les eaux. Si, je peux juste... c'est bête, j'aurais dû le dire avant, mais... En fait, pour ce qui est de l'adaptation quand même de Corto Maltese, c'était pas une idée qui déplaisait à Pratt de son vivant. Pratt avait dit qu'il aimerait bien que sa série continue et il avait pensé, lui, à Milo Manara, qui était d'une certaine manière un peu son élève, pour qui il avait scénarisé deux albums, El Gaucho et Un été indien. Et Manara avait été, il le disait lui-même, extrêmement flatté, mais pris de panique, parce que pour lui, qui pourtant est pas un dessinateur, voilà, il y a quand même du level, quoi, pour lui, il était impossible de marcher dans les pas du maître. Il n'aurait jamais été à la hauteur.
Moi, ce qui m'a plu dans l'album de, justement, de Bastien, enfin, dans la reprise de Bastien Vies, c'est qu'il a justement pas voulu copier le style de, qu'il l'a fait dans le sien vraiment propre. Quand tu ouvres l'album, même si tu n'as pas vu la couverture, tu sais que c'est du Bastien Vies.
Au lieu de le représenter vraiment comme un marin, lui, il imaginait son personnage de Corto plus comme un reporter de guerre. C'est-à-dire, en fait, qui voyage aussi beaucoup, qui est sur le terrain, il se passe des événements. C'est là où, notamment, son collègue Martin Kennen, lui a parlé d'une expression que je trouvais assez chouette. Il a dit c'est un peu un ronin des temps modernes. Alors le ronin, le samouraï errant, parce qu'en fait l'étymologie du mot ronin, c'est l'homme vague. Bref, on va passer du coup à la seconde présentation d'album, et c'est cette fois Simon qui va nous présenter ça.
Effectivement, moi, quand on me parle de reprise d'adaptation, je peux pas faire autrement. Tout de suite, je pense à Spirou. D'abord parce que Spirou, c'est un personnage un peu particulier de ce côté-là. C'est un personnage, en fait, qui a été repris un nombre incalculable de fois. Si on doit faire une petite histoire de Spirou en quelques lignes, avant d'arriver à l'album qui nous intéresse, spoiler alert, il s'agit du Faiseur d'Or. Faut imaginer que Spirou a d'abord été créé, sur la demande de l'éditeur Dupuis, par un Français qui s'appelle Rob Vell. En 38, il a créé le personnage de Spirou, et il lui a rapidement adjoint le personnage de Spip. En 43, Rob Vell a confié, on va dire, le personnage à Gigé, Joseph Gillin, qui a, lui, créé entre autres le personnage de Fantasio. Et en 47, Gigé file son personnage à Franquin, mais littéralement, il lui passe comme ça, c'est-à-dire en plein milieu d'une histoire qu'il était en train de faire, en plein milieu d'une planche, sur une petite histoire qui s'appelait Les Maisons Préfabriquées. Et Franquin, après, va animer Spirou pendant une vingtaine d'années, jusqu'à ce que, pour tout vous dire, en ayant marre, il décide de jeter l'éponge. Et que Dupuis, qui quand même est le propriétaire du personnage, c'est-à-dire que c'est pas un personnage qui appartient à ses auteurs, mais c'est un personnage qui appartient à son éditeur, Dupuis le confie à Fournier. Fournier, en 68, c'était un jeune gars de 20 ans. Breton, français donc, et pas belge, ce qui évidemment a fait un peu grincer les dents. Il éditait chez Spirou une bande dessinée qui s'appelait Bisu. C'était l'histoire d'un petit lutin en forêt de Brocéliande. Et un jour, Dupuis convoque Fournier dans son bureau. Fournier, il va un petit peu à reculons en disant « Ça y est, c'est foutu pour Bisu, c'est pas la série préférée des lecteurs, il va me dire de l'arrêter. » Et Dupuis dit à Fournier « Bon, ben, c'est bien ce que vous faites, Bisu, mais bon, ça se vend pas super bien. » Alors Fournier, un peu embêté, il fait « Bah ouais, c'est vrai. » Et du coup, Dupuis lui dit « Qu'est-ce que vous diriez de reprendre Spirou ?» Et là, gros blanc, parce que alors pour Fournier, évidemment, c'était très très inattendu. Et puis, c'était le personnage Spirou avec lequel il avait grandi, et puis il se sentait pas nécessairement légitime. Beaucoup de personnes pensaient qu'effectivement, ça devait être de base un auteur belge pour Spirou. Mais Dupuis avait senti quelque chose chez Fournier, à savoir que... Alors, ce qu'on dit, c'est qu'a priori, Dupuis avait pas été ultra fan des histoires de Zorglub qu'avait faites Franquin, qui étaient des histoires que Dupuis avait jugées très très modernes, et il avait envie un peu d'histoires un peu plus poétiques. Et il se trouve que Fournier est un poète, vraiment un poète de la bande dessinée. C'est ça qui a plu à Dupuis. Donc Fournier sort de chez Dupuis, il décide d'aller voir Franquin, Franquin était au courant, et il lui dit, et ça c'est la phrase historique, « Reprends pas Spirou, tu vas t'emmerder. C'est un personnage qui t'appartient pas, qui t'appartiendra jamais, tu vas te faire chier avec, comme moi, je me suis fait chier pendant 20 ans. » Sauf que voilà, ce que disait Fournier, c'est que bah oui, mais quand Franquin avait récupéré Spirou, ça lui était un petit peu tombé dessus comme ça. Gigé, c'était son maître, il l'avait un peu formé aussi dans ce... pas nécessairement dans cette idée-là, mais enfin bon, ça faisait partie des possibilités. Et pour Fournier, lui, c'était une sorte de rêve de gosse. Donc il rentre chez lui, Il décide de s'entraîner à dessiner Spirou et il dit à Dupuis que d'accord, il veut bien reprendre Spirou. Alors évidemment, il y a un peu la pression parce que passé après Franquin, qu'on considère aujourd'hui comme l'un des grands grands maîtres de la bande dessinée et qui déjà hein, dans les années 60 était considéré comme l'un des plus grands auteurs, alors on va se poser la question du passage de relais. C'est vrai que quand Franquin a récupéré Spirou, il a un peu tout créé. Il a créé après les ambiances, il a créé des personnages secondaires, il a créé le comte de Champignac par exemple, tous les habitants de Champignac en Cambrousse, le maire du Pilon. Et puis il a créé aussi le Marsupilami, et c'est quand même pas rien. Et Franquin a dit à Fournier, moi je veux bien te laisser les personnages que j'ai créés, mais pas le Marsupilami. Le Marsupilami il est à moi, je veux le garder, je veux être le gars qui l'anime, etc. Et la discussion avec Fournier en disant, ben ouais, mais est-ce que ça va pas faire une rupture un peu trop forte? Et là Franquin, qui était un type très humble et vraiment très sympa, a dit, écoute, on va faire un truc, je te laisse le Marsupilami pour la première histoire que tu vas faire. Par contre, on fait un truc, on fait un deal, c'est moi qui l'ancre, c'est moi qui le dessine. Et si jamais je trouve qu'il se comporte pas comme Marsupilami, je te le dis. Après le reste, c'est ton histoire. Et donc Fournier va s'atteler à sa première histoire sur Spirou, donc qui va s'appeler Le Faiseur d'Or, où on va suivre l'histoire en fait de Spirou et Fantasio qui vont réaliser qu'une Nicolas Flamel avait percé le secret de la fabrication de l'or et qu'il était donc possible de créer de l'or avec tout ça. Et alors pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que Fournier préparait ses planches et pour les planches où apparaissait le Marsupilami, il le faisait qu'en crayonné. Il les envoyait ensuite à Franquin qui ancrait le Marsupilami, parfois d'ailleurs lui envoyait sur des calques des petites corrections, enfin pas des corrections, plutôt des suggestions en disant bah tiens, ton personnage pourrait avoir plutôt cette position, etc. Ça marcherait mieux, tout ça. Là, c'est marrant, tu fais pas un gag. Pourquoi tu fais pas un gag? Ça pourrait faire rire, et n'oublie pas que c'est important de faire rire. Et après, il renvoyait lui-même les planches à Fournier, qui les ancrait définitivement. Alors, il faut se dire aussi que c'était 68, et que 68, ben, c'était mai 68. Donc, à l'époque, il n'y avait plus de poste, il n'y avait plus rien. Donc Fournier s'était même arrangé avec un chauffeur de bus avec lequel il était devenu copain, et qui faisait la ligne Paris-Bruxelles, parce qu'il était du coup en service militaire à Paris en 68, pour transporter les planches. Mais à part ça, Franquin, c'est pas du tout mêlé ni de l'histoire, voilà, ni du développement des personnages, etc. Alors, c'est pas la seule bande dessinée hein, qui a été faite par deux auteurs en parallèle, hein, mais à ma connaissance, c'est un peu le seul exemple de voyage de planches comme ça, de pays à pays, planche par planche, pour qu'elle soit ancrée à gauche et à droite. D'ailleurs, vous verrez, si vous regardez attentivement, même d'ailleurs pas attentivement, mais si vous regardez l'album Le Faiseur d'Or, on reconnaît très très bien le Marsupilami de Franquin, qui est vraiment animé, et sans vouloir manquer de tact envers Fournier, qui lui-même d'ailleurs disait qu'il a fait ce boulot en amateur pendant 14 ans. C'est le deux premiers tomes de Spirou, les personnages étaient pas encore, ils les avaient pas encore tout à fait possédés, quoi, véritablement. Je crois que c'est à partir de l'Abbaye Truquet où il a vraiment trouvé son style et qu'il a réussi justement à se débarrasser un peu de l'influence de Franquin. Mais voilà. Donc c'est pour ça moi que j'ai choisi cet album-là, que je trouve être un super album d'aventure. Aussi parce que Fournier, il est très très mésestimé, parce qu'il a fait des albums qui sont vraiment de toute beauté, il a créé des personnages qui sont super, et voilà. C'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément. Donc je vous encourage évidemment à relire tous ces Spirou, avec un petit coup de cœur sur L'Ancou, et aussi sur L'Abbaye Truquet, que je trouve extraordinaire, ainsi que sur Tora Tora Pas. Enfin bon, Codol Tyran, Derrico Partout sont tous formidables.
Tous quoi.
Tous, ouais. Tous. Et puis, puisqu'ils ont été réédités récemment en intégrale, aussi de jeter un petit coup d'œil au Bisu. Et quand on relit les premiers Bisu, on comprend que Dupuis ait eu envie de confier Spirou à ce poète de la BD. Voilà, Fournier, je t'aime.
Eh ben merci beaucoup, Simon. Un truc qui m'a marqué, mais ça concerne pas directement Fournier, mais à chaque fois qu'on parlait de Franquin, tu disais il a animé son Spirou, il a animé son Marsupilami. Et c'est vrai qu'en fait, au départ, le rêve de Franquin, bah lui, c'était pas faire de la bande dessinée, c'était faire du cinéma d'animation. Et d'ailleurs, à l'époque, il travaillait dans un studio de dessin animé qui s'appelait CBA, juste avant de se mettre à la bande dessinée, notamment avec Maurice. Et eux, leur rêve, c'était d'aller à Disney. Ils étaient partis avec JG. Enfin, ils voulaient plus se rendre aux États-Unis pour des raisons, entre guillemets, politiques.
Bon, pas entre guillemets, hein. Non, il avait peur des risques.
Simplement, c'était la période où Disney, eux, licenciaient beaucoup, beaucoup. Donc, ils prenaient vraiment personne. Et bah, ils se sont fait refouler.
Imaginez un petit peu s'ils avaient été engagés.
Comme quoi, des fois, les petites histoires dans l'histoire, ce sont vraiment des trucs passionnants. Et d'ailleurs, pour recouper avec l'actualité, parce qu'au moment où on publierait ça, sur le nouvel album d'Emile Bravo, qui sera sur le point de sortir, ce qui sort le 20 mai.
Et la reprise officielle de la série aussi, qui s'appelle, spoiler alert, La mort de Spirou. Attention.
Voilà. Et enfin, pour revenir un petit peu sur Fournier, il est parti après une décision en fait de Dutilleux, qui était l'éditeur de l'époque, qui voyait qu'il y avait un peu une perte de vitesse au journal Spirou et qui avait décidé de se calquer un peu sur un modèle peut-être un peu plus américain. Ouais. Il avait décidé de multiplier les occurrences Spirou.
C'est vrai, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. La première proposition qui a été faite à Fournier, si je me souviens bien, c'est de lui adjoindre un studio. Voilà, à l'américaine justement. Et Dupuis avait proposé à Fournier, écoutez, voilà, vous continuez à faire votre scénario, vous dessinez vos personnages. Après, comme Franquin l'a fait à une époque, Vous trouvez votre JDM pour faire les décors ou votre OVA pour faire les personnages secondaires. Puis comme ça, on arrivera à sortir une page de Spirou par semaine, parce que c'était ça le souci, c'est qu'il n'y avait pas, enfin, il y avait pas une planche de Spirou pendant par mois. Fournier a refusé. Et à ce moment-là, Dupuis lui a dit, bah, dans ce cas, on va faire un truc, c'est qu'on va lancer plusieurs histoires de Spirou par des auteurs différents. Comme ça, chaque fois, dans chaque journal, il y aura quand même une planche de Spirou. Et là, Fournier l'a très très mal pris, et c'est là qu'il a décidé, lui, de jeter l'éponge. Mais c'est finalement cette idée qui a été retenue, parce qu'on s'est retrouvé après avec trois histoires de Spirou en parallèle. Celle de Chaland, Cœur d'Acier, qui n'a jamais été finie d'abord, que Chaland est décédé, et que je crois que c'est une raison suffisante. Après, il y avait ce couple un peu étrange et qui n'ont pas eu de bol, Covin au scénario et Nick Broca au dessin. Broca, lui, qui était issu du dessin animé, c'est lui qu'on doit les Snorky, pour ceux qui s'en souviennent.
Qui sont les Snorky?
Puis donc après Tom et Jean-Ri qui sont devenus officiellement les dessinateurs de la série et auteurs. Sauf que Nick Broca et Covin, quand ils ont signé le contrat, il y avait plusieurs éditeurs qui avaient la possibilité de faire signer des Spirou. Ils ont signé un contrat qui leur interdisait de reprendre tous les personnages secondaires. Ils avaient le droit de reprendre Spirou et Fantasio, mais aucun autre personnage. Ce qui a complètement flingué. Ils ont rien pu faire. Ils ont essayé d'inventer des personnages, mais les gens ils ont, bah oui, mais il est où Champignac, il est où Zorglub, il est où Zantafio. Ils n'ont pas eu contractuellement le droit d'utiliser les autres personnages. Et honnêtement, c'était des bons albums, mais on leur a pas vraiment laissé leur chance.
Et ça va me permettre de rebondir vers le troisième personnage que va nous présenter Andy. Un personnage aussi, au départ, mine de rien, un peu de commande, mais qui est un personnage américain. Et c'est Andy qui va nous présenter ça.
On quitte la franco-belgerie, on rentre dans les États-Unis avec Sean Gordon Murphy. Sean a fait tellement d'albums exceptionnels, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous citer un peu le bonhomme avant de vous parler de l'album qui pour moi est la meilleure réadaptation de ces dernières années. Tout d'abord, un de ses premiers boulots qu'il a fait vraiment personnellement, ça a été Off-Road en 2005, récit plus de tranches de vie. Puis après, il a repris certaines grosses licences, notamment comme Hellblazer en 2008. C'était un des meilleurs Hellblazer que j'ai vu, notamment en 2012, avec son meilleur album, juste avant celui que je vais présenter, Punk Rock Jesus, qui a été un one-shot complètement extraordinaire. Et enfin, juste avant Batman, il avait fait The Wake, qui a reçu le prix Eisner avec Snyder, qui a fait un très bon boulot, un peu façon SF, mais qui était vraiment bien. Et la grande époque arrive. 2018, Batman The White Knight. Et là, la claque atomique. Batman The White Knight, meilleure réadaptation de personnages, peut-être pas de tous les temps, mais en tout cas qui a marqué l'histoire. Cette fois, Sean décide de réinventer le genre. Batman c'est le méchant, le Joker c'est le gentil. Pour moi c'est un pari un peu risqué, étant grand fan de la licence. Mais une fois que je me suis lancé dedans, bah, je ne l'ai pas relâché. Et maintenant, je suis son travail de très près. En couleur, en noir et blanc, en diagonale, à l'envers, n'importe comment. Le boulot de Sean Murphy, c'est du caviar, c'est foie gras, c'est ce que vous aimez le plus, hein, c'est vous qui choisissez.
C'est du brocoli.
C'est du brocoli. Tout ça pour dire que Batman The White Knight, c'est pour moi une des meilleures réadaptations qui a été faite, parce qu'il offre un vrai coup de nouveau, où on n'est plus simplement sur le combat physique du bien et du mal entre Batman et le Joker. Certes, c'est le début de l'histoire, mais après on dépasse très vite tout ça, avec un aspect beaucoup plus politisé, avec une vraie idée en fait de se poser, est-ce que le vigilante Batman peut faire le bien en ignorant toutes les règles ? Et sur ce plan-là, bah Sean Murphy a vraiment fait un boulot de fou en nous proposant des personnages travaillés, des dessins monstrueux et une vraie profondeur de scénario. Son coloriste est vraiment hyper talentueux aussi, qui offre une vraie puissance à son dessin en nous plongeant dans des planches vraiment faramineuses. Tout ça pour dire que Batman The White Knight, c'est une tuerie. Et la suite, qui s'annonçait moins bien, avec des personnages qui m'intéressaient moins, et ben c'était encore plus une claque. Et hier, j'ai eu la chance d'aller chercher mes comics en VO. J'ai pu lire les deux premiers issues de Batman Beyond The White Knight, qui sera le troisième volet. Et c'est encore plus une grosse claque. Sean Murphy a aussi une femme très talentueuse, hein. Ils sont tous les deux parfaits, c'est le couple de l'année. Katana Collins, de son nom d'autrice. Et ils ont aussi deux chiens, Red et Bebop.
Qui sont très talentueux, il paraît.
Très talentueux
dans leur domaine.
Eh ben merci beaucoup Andy. J'en avais parlé un petit peu quand j'avais fait la transition entre Spirou et Batman. Batman, avant que ça soit la série par Sean Murphy, c'est un personnage qui est créé en 39 par Bob Kane et Bill Finger. Alors dès sa naissance, il y a déjà un petit bisbis au niveau des auteurs, puisque en fait c'est Bill Finger qui est...
Il a été crédité bien après. À l'échelle de l'histoire du monde, il n'y a pas si longtemps.
Quand tu vois Batman, il s'est toujours créé par Bob Kane et très rarement Bill Finger.
Maintenant c'est les deux.
Ouais mais c'est plus rare, même dans la plupart des... Voilà.
Dès le départ, en fait, ça a été très compliqué. Et du coup, Batman, c'est aussi un produit de commande, personnage qui apparaît dans Detective Comics en 39, et ça devait être un personnage pour surfer, ou en tout cas essayer de faire opposition à The Shadow, créé par Gibson dans les années 30, et qui était vraiment le personnage de Pulps à l'époque, c'était vraiment le personnage détective, voilà, et c'est ce qui marchait à fond. Et Detective Comics, on dit, vas-y, on va en faire un de notre côté. Et celui que tu présentes, Sean Murphy, c'est l'une des occurrences qui marche le plus ces dernières années. C'est vraiment une série parallèle et du coup il peut se permettre pas mal de choses. Alors ça avait déjà été fait un petit peu avant, on pense évidemment avant lui à Frank Miller qui avait fait The Dark Knight Returns. Il avait présenté un Batman vieillissant et puis Sean Murphy il a eu cette chance là, il l'a prise et c'est vrai que bah, ça lui permet de faire un super comics et c'est vraiment du très très bon Batman.
Il a pris un vrai parti en décidant de reprendre des événements marquants de l'histoire de Batman mais en les transformant. Cette fois c'est ma version, c'est moi qui dirige et cette fois dans cet univers-là, ce sera autrement. Et ça, c'est vachement intéressant.
Petite particularité, c'est que en fait, c'est pas la première fois où il a fait du Batman. Alors, je t'en avais déjà parlé, Andy. En fait, il avait fait une histoire courte et lui, on lui avait confié de faire, en tout cas, de dessiner. Il n'était pas au scénario. Un album sur le Scarecrow, c'est
l'épouvantail.
L'épouvantail, ouais. Donc ça, c'était en 2005. Ça se reconnaît dans le dessin que c'était encore un jeune Sean Murphy, même si ça reste déjà très bon. Il raconte qu'il y a deux rencontres très particulières pour lui dans le monde du comics. Il y en a une avec une femme qui s'appelle Karen Berger, c'est une éditrice. C'est l'une des fondatrices du label Vertigo. Et c'est elle, en fait, qui l'a poussé à faire l'un de tes albums préférés, Punk Rock Jesus. À côté des dessins qu'il faisait pour Batman, il avait un peu des carnets de croquis à côté. Il faut savoir que Sean Murphy, c'est quelqu'un qui est un boulimique de dessin. Il ne s'intéresse pas, évidemment, uniquement aux comics américains. Et lui, il est très inspiré aussi par la BD franco-belge, mais aussi par le manga. Il parlait aussi beaucoup d'Otomo, choses comme ça. Et c'est elle qui lui a dit « Ok, bah, tu vas me faire un album, tes dessins de croquis, tu me fais une histoire et tout, et on le sort chez nous. » Et en fait, c'est elle qui lui a vraiment permis de se libérer au niveau du dessin. Et à partir du moment où il a fait son Punk Rock Jesus, tout le monde a eu ça. On dit ok, le gars il se démarque vraiment et tout. Donc comme quoi, il y a vraiment des personnages de l'ombre qui ont vraiment une importance non négligeable. Voilà. Et la deuxième personne qui a vraiment marqué Sean Murphy, c'est Snyder. Scott Snyder, c'est un scénariste de comics très capé, très en vue. Au moment où il a rencontré Sean Murphy, lui avait déjà travaillé énormément sur du Batman. C'est lui à l'origine de la Cour des Hiboux, un run assez iconique. Ils sont devenus très très potes. Et c'est en fait grâce à un gars qui avait déjà fait plusieurs années sur du Batman que, en gros, il a pu échanger pas mal sur ce qui a déjà été fait, ce que lui veut faire, comment est-ce que lui le voit en tant que scénariste. Et voilà. Et bah du coup, on va passer à l'avant-dernier d'entre nous. Cette fois, c'est Vincent qui va nous présenter un personnage. Et c'est un personnage qui, cette fois, n'est pas issu directement de la bande dessinée.
Alors, le personnage que j'ai choisi pour ce podcast est un mythe. Duc de la déduction, prince de la logique, roi de l'investigation, esthète de l'enquête, il est le héros de 4 romans et 56 nouvelles, et sujet d'un nombre incalculable d'adaptations, de pastiches et autres détournements. Je veux parler, bien sûr, du personnage de fiction créé par Sir Arthur Conan Doyle, le célèbre Sherlock Holmes. Bon, quand je dis incalculable, j'exagère un petit peu, mais j'ai quand même dénombré plus de 60 films, téléfilms et séries depuis 1903 jusqu'à aujourd'hui. La BBC a son fameux Sherlock, Disney a son Basil Détective Privé pour les plus anciens, même Miyazaki en a fait une adaptation dans les années 80, c'est peu dire. Dans la BD, parce qu'il faut bien revenir au sujet, entre adaptation et parodie, les références sont légion. Glénat, Soleil, Le Lombard, Vent d'Ouest, tous s'y sont mis, même dans le manga, avec le fameux Moriarty. Bref, le défi relevé par Cyril Hieron et Benoît Dahan paraissait insurmontable, et pourtant, quelle réussite! Alors avant d'aborder le fond, je voulais décrire un petit peu l'objet. C'est un diptyque, donc c'est en deux tomes, de toute beauté. Sorti en mai 2019 et septembre 2021, avec des couvertures serties de magnifiques emporte-pièces à l'effigie de notre héros et de son ennemi. Pour nos très nombreux auditeurs, tout simplement, la couverture est trouée en forme de profil de personnage et on voit l'intérieur de l'album. Le pitch, ou du moins la tentative de pitch, tellement la singularité de la forme pourrait faire passer le fond au second plan. Et pourtant non, pas du tout. Et c'est là où c'est du génie. Le scénario est fantastique. On accompagne ainsi Sherlock Holmes et son acolyte Watson dans une enquête palpitante qui commence avec la découverte d'un ticket de spectacle étrange et d'une poudre mystérieuse découverte sur les vêtements d'un collègue du docteur Watson que l'on a retrouvé amnésique, en chemise de nuit et complètement tourneboulé. Il n'en faut pas plus à Sherlock pour se jeter à corps perdu dans l'enquête, et voici nos deux détectives lancés dans ce qui semble être un complot d'une ampleur prodigieuse, jusque dans les hautes sphères du royaume. Au-delà de l'audace, dans la disposition des cases et dans le rythme de la narration, une mise en scène insolite nous fait suivre l'enquête à l'intérieur même de la tête de Sherlock, au sens propre, celui de la représentation graphique, du dessin, comme au sens figuré, tellement on avance avec lui au fur et à mesure de ses déductions et autres découvertes. Le dessin représente littéralement la pensée du détective. Pour moi, c'est fantastique de justesse. Pour nous aider à suivre les circonvolutions neuronales de Sherlock, les auteurs ont choisi de représenter un fil rouge qui traverse les cases et les planches entières des deux tomes, du début de l'intrigue jusqu'à son dénouement. Impeccable. Je ne sais plus si je suis un acteur passif ou un lecteur actif. L'immense talent graphique sert parfaitement le scénario, avec une ambiance victorienne de la fin du 19e en Angleterre, un souci du détail tant dans les costumes que dans l'architecture du bâtiment et les objets. Mon esprit bouillonne, mes yeux s'éveillent, mes doigts s'activent à suivre le fil rouge, mes cinq sens, ou presque, sont en action. Bref, une BD particulièrement plaisante à mettre entre toutes les mains. C'est paru chez Ankama.
Eh ben merci beaucoup Vincent pour l'anecdote. Le titre « Dans la tête de Sherlock Holmes », c'est en fait vraiment une référence directe à une phrase que le Dr Watson dit dans le tout premier roman de Sherlock Holmes, qui était une étude en rouge publiée en 1887. C'est justement lorsque Watson explique un peu ses transes, ou en tout cas ses moments de réflexion de Sherlock, il dit « c'est ce qui se passe dans sa mansarde ». Pour revenir sur Sherlock Holmes et l'origine du personnage, savoir que c'est un personnage calqué sur un personnage existant, réellement. Ça, on le sait parce qu'en fait, on a énormément de correspondances de Conan Doyle à l'époque, autant avec sa famille, ses proches, qu'avec ses amis, comme par exemple Stevenson ou Barry. Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, et Barry de Peter Pan. Joe Bell, c'était un de ses professeurs en faculté de médecine, ouais, qui avait un peu ce talent inné de déduction. Conan Doyle, il décrivait beaucoup de choses aussi qui se passaient dans la tête ou dans l'attitude de Sherlock, mais il n'était pas très bavard quant à son accoutrement en général. Il n'a jamais décrit qu'il portait cette casquette, et cette casquette, on la doit à un illustrateur qui s'appelle Sidney Paget. Dans les premières aventures qui ont été illustrées, c'est lui qui lui a mis ça. Du coup, c'est resté depuis des années, voilà. Et le personnage de Conan Doyle, c'est un personnage qui a eu un grand succès, qui a eu une certaine gloire, mais qui a aussi un peu frustré son auteur à cause de ce succès-là. Conan Doyle en avait marre de son Sherlock et il a décidé de le faire mourir. Il fait mourir son personnage en le faisant chuter de chute de... Alors j'arriverai jamais à prononcer le nom, mais il se bat avec Moriarty, les deux chutes, et donc son détective était censé mourir. Et on sait que c'était un assassinat vraiment prémédité de son personnage, parce que pareil, on a retrouvé des courriers, notamment il avait marqué à sa mère « Je pense tuer Holmes, le liquider corps et âme, il m'empêche de penser à des choses meilleures. » Il avait aussi dit à son ami « J'en ai une telle horreur que j'éprouve à son encontre la même sensation que pour ce pâté de foie gras dont j'ai un jour tellement mangé que prononcer seulement le nom me rend malade. » Donc je pense qu'il avait une overdose, on va dire. Mais à partir du moment où il a décidé d'arrêter, il a reçu énormément de courriers pas sympas. D'ailleurs, il y avait énormément de courriers qui étaient envoyés à la fameuse adresse du détective 221B Baker Street. Mais sachant qu'à l'époque où il a créé son Sherlock, il n'y avait pas de 221B Baker Street. Street. C'était en fait la rue de Baker Street. Il y avait Upper Baker Street, c'était une même longue rue et en fait qui était découpée en trois segments. Mais à l'époque, cette adresse-là n'existait pas. Et finalement, il l'a fait quand même revenir à partir du chien de Baskerville en 1901. Le retour, mais pas tellement officiel, parce que c'était censé être une histoire qui se passait avant la chute. Et vraiment, le retour officiel du détective, il arrive dans la maison vide en 1903.
Sherlock Holmes a été repris également par le fils de Conan Doyle, qui a été en fait un prête-nom, parce qu'il était visiblement pas... il n'avait pas le talent du papa, on va dire. Mais il y a un certain nombre de romans de Sherlock Holmes qui sont signés du fils Conan Doyle et qui ont été écrits par tout un tas de plumes a priori différentes. Et je vous cache pas que c'est pas tout à fait le même délire quand même. Non.
J'ai choisi en fait un personnage qui avait déjà une existence en littérature et pour le coup aussi en bande dessinée, mais avant tout c'est un personnage qui a eu sa naissance dans un roman, avant d'être adapté sur multiples supports. L'album que je vais vous présenter c'est Johnny Jungle de J.C. Devenay, Jérôme Jouvray et Anne-Claire Jouvray. Alors, c'est un mélange un peu particulier, parce que ça parle en fait à la fois d'une histoire originale sur le personnage de Tarzan, qui est cet enfant sauvage élevé par les singes, et à la fois c'est un biopic fictif sur Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, ça a été l'un des premiers, pas été le premier en tant que tel, mais ça a été l'un des plus grands acteurs qui a interprété Tarzan au cinéma, notamment à l'arrivée du cinéma parlant dans les années 30. Dans cette histoire-là, on retrouve un enfant qui est élevé par des singes, donc on prend vraiment la même base de l'enfant sauvage, et cet enfant va retourner à la civilisation. Mais là, le twist arrive, c'est que cet enfant est récupéré par un réalisateur de films, de cinéma, qui va en faire un acteur émérite. Ce garçon élevé dans la nature devient une star de cinéma dans une sorte de fantasme de Hollywood des années 30, et va devenir un Johnny Jungle, ouais, une star de cinéma qui joue lui-même le rôle d'un Tarzan, d'un héros dans la nature sauvage. On va suivre à la fois son acclimatation à la civilisation, sa starification, parce que ça devient vraiment une énorme star, et sa descente aux enfers. Là où c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ça soulève autant d'interrogations qu'il y a dans certaines adaptations autour de Tarzan, qui sont des questions sur l'identité, à quel endroit on se sent appartenir ou pas, où est notre place. Et c'est également quelque chose qu'on retrouve énormément aussi dans la vie de Johnny Weissmuller, parce qu'il a eu bizarrement un peu cette vie-là, il a connu le succès très tôt. Alors d'abord sportivement, le gars a quand même gagné 5 médailles d'or en natation aux Jeux Olympiques, alors il en a gagné 2 en 1924 et 3 en 1928. Il a gagné aussi une médaille de bronze en waterpolo, parce qu'il fait aussi partie de l'équipe en waterpolo. L'année où il a gagné 3 médailles d'or, il a gagné une médaille de bronze. Alors souvent on l'oublie, une médaille de bronze au JO ça compte. Tu l'apprends. Ça a toujours été aussi un acteur qui a eu aussi ses démons, qui savait pas trop où se situer. Déjà, c'est pas entre guillemets un acteur studio. Lui, il venait du monde du sport. Il a été repéré parce qu'il était hyper agile, hyper beau gosse, hyper athlétique. Mais du coup, il n'avait pas la réplique facile. Alors après, ça allait bien parce que Tarzan, c'est pas un personnage qui a énormément de répliques, donc ça allait plutôt bien. Mais ça lui a été un peu reproché quand le cinéma a commencé à évoluer un petit peu. Déjà vieillissant, il pouvait moins faire d'acrobatie. On a décidé de lui prendre d'autres acteurs, entre guillemets, plus talentueux ou qui savaient mieux jouer. Et vraiment, en termes d'identité, c'est aussi quelque chose qu'il a suivi pendant longtemps. Parce qu'en fait, quand il a eu ses médailles d'or aux Jeux Olympiques, il était un peu hors la loi. Sa famille est d'origine roumaine et lui, il était né en Roumanie à l'époque. Et il avait switché les passeports avec son frère, parce que son frère, lui, avait un passeport américain. Et pour participer dans l'équipe nationale des États-Unis, ils avaient trafiqué ça pour qu'il soit identifié comme né aux États-Unis, voilà, pour pouvoir participer aux JO.
Sans blague.
Et ça, c'est quelque chose qu'il a vraiment suivi quand il avait plus de rôle au cinéma, où il avait quand même un peu la trouille que même ça lui soit enlevé.
Il les a gardés jusqu'au bout, finalement.
Ouais, il les avait gardés. Bah, parce qu'après, il avait gagné sa nationalité officielle américaine, voilà. Mais ça faisait partie de ses angoisses. Et pour revenir au travail de J.C. Devenay, Jérôme et Anne-Claire Jouvray sur l'album, j'ai décidé déjà d'en parler parce que moi, c'est un diptyque que j'ai vraiment adoré. Alors, c'est deux albums qui sont sortis entre 2013 et 2014 chez Glénat. Déjà parce que je trouve ce point de vue ultra intéressant de mêler les deux histoires l'une avec l'autre. Même dans la matière bande dessinée, je trouve que l'album est ultra intéressant à bien des égards. Déjà graphiquement, je trouve que c'est peut-être l'un des travaux les plus aboutis de Jérôme Jouvray, parce qu'il a notamment un dessin qui évolue pas mal au fur et à mesure de l'album. Il a un dessin qu'on lui reconnaît un peu plus de manière un peu plus classique ou cartoony. C'est le dessin en général qui va raconter toute l'histoire avec des personnages pas caricaturaux mais très caractérisés, des yeux très cernés de noir comme l'étaient les acteurs à l'époque, petite vaguelette qui va bien dans les cheveux. Mais il y a des moments dans la BD où le style graphique va pas mal changer. Entre les chapitres, il y a des sortes de fausses affiches de films où là, pareil, la couleur est différente. Il y a même des moments où il s'est amusé à reproduire des dessins un peu plus réalistes, un hommage à Bernard Hogarth qui a été l'un des papas, en fait. Alors, ça n'a pas été le premier, ça a été le deuxième à reprendre le personnage en bande dessinée. Le premier qui a adapté Tarzan en bande dessinée, c'était Al Foster dans les années 30. Et je crois que j'ai même pas dit qui est à l'origine du personnage de Tarzan, c'est Burroughs. Qui a créé le personnage en 1912. Et voilà, et juste pour finir sur une anecdote, une des plus fameuses répliques de Tarzan. Alors, il y a eu plusieurs cris, mais souvent, quand on pense au cri de Tarzan, c'est évidemment celui-là qu'on a en tête. Et du coup, il n'y a même plus maintenant besoin, des fois, de l'entendre. D'ailleurs, je trouve que ça, c'est vraiment super dans l'album Joey Jungle. Spoiler alerte! Ça se termine, t'as un enregistrement qui doit être passé un peu sur cassette où on doit entendre le fameux cri. Et ça se termine comme ça, le cri n'est pas marqué en onomatopée, on a l'impression de l'entendre. Et la deuxième réplique la plus connue de Tarzan, c'est « Moi Tarzan, toi Jane bah, ». Pareil, cette réplique, à l'époque où le mythe prenait vraiment de l'épaisseur avec tous les films de Johnny Weissmuller, elle n'a jamais été prononcée, en tout cas jamais comme ça.
C'est comme « Luc, je suis ton père ». Il dit pas « Luc, je suis ton père ».
Il dit quoi ?
Il dit « Je suis ton père », c'est tout. Il dit pas Luc. Et tout le monde dit Luc, je suis ton père.
Ouais.
Non, c'est... Okay. C'est un nom d'ailleurs, l'effet Mandela. Quand tu as une phrase qui, dans l'imaginaire populaire, est attribuée à un personnage et qui en fait ne l'est pas.
D'accord, ok. Bah, en effet, ouais, voilà. C'est ce dont on parle. Merci beaucoup.
Juste un petit mot de conclusion avant que tu conclues pour de vrai aussi. Là, à l'heure où on enregistre le podcast, on est à 3 jours du jugement en délibéré, savoir si Dupuis va avoir le droit de sortir sa nouvelle version de Gaston Lagaffe par le Canadien de l'AF. Donc la publication dans Spirou se fera peut-être pas, mais l'album est suspendu à cette décision de justice d'ici quelques jours.
Voilà. Et ben c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir écouté ça. Je sais pas, honnêtement, quand il y aura un autre podcast. Peut-être dans un an, peut-être dans moins, mais là, ça fait un peu longtemps. N'oubliez pas de parler des livres que vous avez aimés aux personnes que vous aimez. Parlez aussi juste aux gens que vous aimez quand même déjà. C'est déjà
parler aux gens. Parlez à des gens que vous aimez, aux livres que vous aimez.
Aussi. Et voilà, et nous on se retrouve dans je sais pas combien de temps, mais on se retrouve. Allez, à plus.
Salut.
Bye bye.
Bisous. On dit bisous.